Absolument. Donc, Eugène Lassalle est à Montavon, dans une ferme de Roche d'Or. Il entreprend des études à Besançon, d'abord, où son frère travaillait. Et il va poursuivre ses études en philosophie et en théologie à Rome, dans la congrégation du Précieux Sang. Il est ordonné prêtre très, très jeune, à 23 ans. Et il commence son ministère en prêchant des missions en Italie, avant d'être désigné comme gardien du pèlerinage de Notre-Dame des Trois Épis près de Colmar. Mais l'envie de revenir au pays le ramène à Grandfontaine, puis à Delémont, avant d'accéder au siège épiscopal de Bâle.
Comment il était comme curé? Est-ce qu'on sait comment il était?
Alors, il était très apprécié, et au moment où il est élu évêque de Bâle, la population de Delémont le regrette fortement, de même que qu'à Grandfontaine, au moment où il arrive à Delémont, c'est un enfant du village, de la paroisse, donc on est très attaché à sa personne.
Très apprécié. Donc, comment est-ce que Eugène Lachat est devenu monseigneur?
Alors, au moment où son prédécesseur décède, en décembre 1862, le chapitre cathédral est un peu dégarni. Tous les postes de chanoine ne sont pas occupés. Alors, on se dépêche pour compléter le chapitre. Et suivant la procédure du diocèse de Bâle, le chapitre cathédral élabore une liste de candidats potentiels qu'il soumet à la conférence diocésaine qui réunit les représentants des cantons qui font partie du diocèse de Bâle, et ceux-ci ont le droit de biffer et de recompléter la liste. Et ce jeu de ping-pong est assez laborieux à ce moment-là. Il faut dire que Xavier Stockmar, le conseiller d'État jurassien du gouvernement bernois, milite en faveur de l'élection d'un évêque recruté dans le clergé jurassien. En un mois, il publie une brochure de l'élection d'un évêque de Bâle, recommandant l'élection d'un jurassien.
Est-ce qu'il y a des actes particuliers qui vont marquer après l'épiscopat de Monseigneur Lachat?
Oui, s'il est accueilli très favorablement par tous les gouvernements qui composent son diocèse, c'est un diocèse immense, donc de Turgovie au Jura, il y aura quand même assez rapidement des frictions avec ces gouvernements libéraux radicaux qui tentent à contrôler plus exactement, plus fortement l'Église en général. Donc, et là, les épreuves de force vont se multiplier. Donc.
Comme on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui fait finalement de Monseigneur Lachat un personnage emblématique du canton du Jura?
On parle d'abord de ses origines, donc c'est une chose. Deuxièmement, le fait qu'il a été le seul évêque de Bâle, les Jurassiens en ont gardé un souvenir, et du fait que son épiscopat est marqué précisément par cette crise du Kulturkampf, son souvenir est beaucoup plus fortement ancré dans les mentalités puis la tradition orale des Jurassiens.
Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer, François Noirjean, un peu ce que c'était le Kulturkampf en quelques mots?
Alors, c'est un mouvement qui se développe en Allemagne, principalement au début, et qui se répand un peu dans toute la Suisse. C'est la confrontation entre les gouvernements politiques et l'Église, en gros.
Et là, on est dans la fin du 19e siècle.
Donc. Et le premier concile du Vatican offre alors une occasion rêvée à ces gouvernements d'arriver à une confrontation très directe avec le dogme de l'infaillibilité qui est proclamé par le premier concile du Vatican.
Et il y a eu un énorme impact dans le Jura, à cause de quoi?
À cause de quoi? Parce que pendant que Monseigneur Lachat assiste au concile, le séminaire diocésain est supprimé à Soleure, et puis on lui interdit, au moment à son retour, de promulguer le dogme qui a été décrété par le concile.
Alors, grand impact dans la région, donc, quelle a été justement l'attitude de Monseigneur Lachat pendant le Kulturkampf?
Alors, lui, s'insurge contre cette mainmise de l'État. Il ne proclame pas directement le dogme, mais il en donne la définition dans un mandement de carême, et puis demande à son clergé de le dire, de donner connaissance. Et à ce moment-là, les gouvernements radicaux du diocèse de Bâle, à l'exception de Lucerne et de Zoug, destituent Monseigneur Lachat.
Ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Il n'y a pas dû y en avoir beaucoup.
Non, je crois que c'est assez exceptionnel. Donc, allez. Et surtout, les mesures, après, vont se répercuter à tous les niveaux, dans la mesure où le gouvernement bernois interdit au clergé jurassien d'entretenir toute relation avec l'évêque, ce qui provoque, alors, et là, on met vraiment le feu aux poudres, une réaction du clergé. 97 prêtres protestent auprès du conseil exécutif pour dire qu'ils ne se soumettent pas à cette affaire-là. Ils sont immédiatement menacés de sanctions s'ils ne retirent pas leur signature. Aucun ne se désiste.
Est-ce que les Jurassiens, du coup, ils ont suivi le évêque, en fait?
Ah oui, absolument. Donc la réaction des Jurassiens s'illustre par des grands rassemblements, des pèlerinages, notamment à Notre-Dame du Fort-Bourg. On vient à pied des Franches-Montagnes et d'ailleurs, traversant la ville de Delémont en priant des chapelets et chantant des chants à Marie, etc. Ce qui provoque la rage aussi des gens qui sont chargés d'appliquer les décisions du gouvernement.
François Noirjean, des anecdotes sur des prêtres cachés dans la région pour donner la messe dans des granges. Alors, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué?
Alors, c'est lié au fait que le clergé, non seulement est destitué de ses fonctions, mais qu'il est banni du territoire jurassien. Alors, il se réfugie le long de la frontière, surtout dans le diocèse de Besançon. Et alors là, il y a toutes sortes d'anecdotes. Il se déguise en valet de ferme pour venir célébrer dans les granges. Ils sont traqués par la police. Alors, le vicaire de Seigne-Légier, par exemple, pris en chasse par des policiers, se jette dans le Doubs, qui est entièrement français. Donc, ils sont hors du territoire, hors d'atteinte.
Incroyable.
Est-ce que Monseigneur Lachat n'a pas été le bouc émissaire du Kulturkampf?
Alors, c'est une des victimes, etc. Il est vrai que les mesures qui sont prises à son encontre, etc., sont particulièrement virulentes. Donc, dans la mesure où il est chassé de sa résidence de Soleure, il se réfugie dans le canton de Soleure. Il refuse de démissionner malgré l'insistance du pape Léon XIII, qu'il connaît bien depuis le concile. Et il acceptera finalement de démissionner de l'évêque, du titre d'évêque de Bâle pour devenir administrateur apostolique du Tessin, avec un titre honorifique d'archevêque de Damiette, un ancien diocèse en Égypte qui a été supprimé.
Est-ce que, encore une question, vous avez l'impression que cette histoire du Kulturkampf dans la région, elle se perd un petit peu?
Alors, elle se perd probablement maintenant, mais il faut dire que les gens qui ont vécu cette période vivent jusque dans les années 20, les années 30, donc c'est la génération des grands-parents d'une bonne partie de la population jurassienne, et à travers un tableau d'honneur où on publie la liste de tous ceux qui ont été victimes, arrêtés, appréhendés, cités en justice, etc. On cultive ce souvenir, on publie la liste, le portrait de tous les prêtres qui ont été victimes de mesures ou d'autres, et puis la tradition orale. On n'a ni radio, ni télé, ni wifi, etc. On discute beaucoup, on rappelle ces souvenirs.
Ouais.